Merci d'écouter Radio Capi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Capi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Le monde célèbre ce 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. À Lubero, au nord Kivu, une zone marquée par l'activisme des ADF, de plusieurs groupes armés et la présence de l'FC-M23 dans certaines localités. Entre pression des services de sécurité et menaces des groupes armés, les journalistes travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles. En Ituri, les sources sécuritaires renseignent que les rebelles ADF ont fait une incursion samedi au village de Ndimokoto où ils ont pris en otage plus d'une dizaine de personnes, dont des femmes, en majorité des agriculteurs. L'armée dit être à la poursuite de ses ennemis pour la libération des otages. À l'occasion de la célébration ce dimanche 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse, au Nord Kivu, les responsables des médias ont demandé au gouvernement de les accompagner dans l'exercice de leur métier dans un contexte marqué par de fortes menaces sécuritaires. Pour en parler, nous recevons Valérie Moukosa-Sengue, qui est chargée de discipline de l'UNPC section Nord Kivu. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée sur la radio de la paix. Informer peut coûter cher, parfois même la vie. En cette journée internationale de la liberté et de la presse, célébrée ce dimanche 3 mai, focus sur les territoires de Lubero, au Nord Kivu, une zone marquée par l'activisme des ADF, de plusieurs groupes armés et la présence de l'FC-M23 dans certaines localités. Dans ce contexte d'insécurité persistante, entre pression des services de sécurité et menaces des groupes armés, les journalistes travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles. Les détails avec Martial Papimoukeba.
C'est un constat préoccupant de la situation de la liberté de la presse dans les territoires de Lubero. Selon l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, dans la zone, les professionnels des médias font face à des menaces aussi bien dans les zones sous contrôle gouvernemental que dans celles occupées par les rebelles. Dans certaines localités, des journalistes sont interpellés ou intimidés. Ailleurs, ils sont contraints d'abandonner leur métier faute de sécurité. Jean Maliro, président de l'INPC, M. Lubero décrit des conditions de travail particulièrement critiques.
Dans les zones contrôlées par le gouvernement, par exemple, nous enregistrons de plus en plus au cas d'interpellations et même des menaces par les services de sécurité des journalistes qui viennent des zones occupées par les M23, car ces derniers sont souvent pointés du doigt d'être restés dans ces zones. D'autre part, dans les zones du M23, les journalistes ont carrément abandonné le métier, car incapables de produire rien pour leur sécurité, pour éviter des menaces aussi de la part des rebelles. Dans le secteur de Bapere, des radios ont fermé, d'autres avaient même été incendiées.
Une situation qui les défis majeurs auxquels est confrontée la liberté de la presse dans les territoires des Lubero. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
À l'occasion toujours de cette journée internationale de la liberté de la presse, les professionnels des médias du Nord Kivu appellent à un accompagnement du gouvernement afin de leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Selon les chargés des disciplines de l'Union nationale de la presse congolaise, section Nord Kivu, le soutien des autorités reste essentiel pour motiver les journalistes malgré les nombreuses contraintes auxquelles ils font face sur le terrain. Valérie Moukosa-Sengue au micro de Marc Marofimbo.
C'est une journée qui nous pousse à la résilience et montrer qu'au-delà de cette insécurité, il y a une lueur d'espoir, une liberté de la presse. Également une journée où nous lançons un message au gouvernement congolais de laisser cette liberté aux journalistes bien travailler, de leur ouvrir les portes pour donner leur point de vue par rapport à tout ce qui ne marche pas, mais également de comprendre que la presse ou les journalistes, c'est un collaborateur direct avec le gouvernement congolais parce que c'est à travers ces journalistes que l'on donne la bonne information, que l'on lutte contre la désinformation, mais également, comme vous le savez, à l'heure où nous sommes, une autre arme, c'est également cette désinformation. Ça veut dire la guerre également numérique, et ces journalistes aujourd'hui sont là pour faire face à ça. Voilà pourquoi nous demandons encore une fois de plus aux autorités congolaises de nous venir en aide, de nous aider, de nous accompagner pour que nous soyons ce quatrième pouvoir qui est là comme chaîne de garde pour montrer ce qui ne marche pas, mais également montrer au gouvernement là où il y a des zones d'ombre pour que les choses évoluent, pour qu'il y ait un changement dans la société.
En Ituri, le trafic a repris normalement ce dimanche sur la route nationale numéro 4 et sur l'axe Komanda-Luna. Cependant, la journée de samedi était agitée à la suite de l'attaque des ADF au village d'Indimonkoto au sud du territoire d'Irumu. Selon des sources sécuritaires, ces malfrats ont pris en otage plus d'une dizaine de personnes, ce qui a perturbé toutes les activités sur cet axe routier d'une importance économique majeure dans la région. L'armée dit être à la poursuite de ses ennemis pour la libération des otages. Martial Kizabiamongo.
Ce dimanche, des centaines de véhicules qui étaient bloqués sur cet axe routier font mouvement sur le D-Essence, ce qui contraste avec la situation qui a prévalu les samedis. D'après des sources sécuritaires dans la région, des rebelles ADF ont fait une incursion au village Ndimokoto en tirant des coups de feu, ce qui a créé une panique totale dans cette entité. Les sources locales renseignent que ces rebelles ont pris en otage plus d'une dizaine de personnes, dont des femmes, mais à majorité des agriculteurs. Une situation qui a perturbé le trafic sur cette route d'une importante économique capitale dans la région. Des activistes locaux des droits humains saluent l'intervention rapide des forces armées qui a permis de limiter le dégât. Christophe Mouniadérou, l'un d'eux.
Nous, comme population, nous voulons voir l'armée libérer ses otages des mains de ces terroristes ADF, mais aussi à la population de continuer à donner des informations fiables et aux forces armées de la République pour permettre à ces derniers mettre en déroute et libérer la zone de ces terroristes ADF.
Les sources sécuritaires précisent que des opérations militaires sont en cours de la profondeur de Ndimokoto pour la libération des otages demain des ADF en errance dans Walesevonkoto. Bougnard, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Restons dans la province. Des structures de la société civile se mobilisent pour soutenir les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la guerre contre les groupes armés. Au cours d'une marche pacifique organisée samedi à Bunia, ces activistes se sont engagés à défendre les valeurs de l'unité nationale. Le reportage de Martial Kiza Biamungu, rendu par Jean Gandou Kabongo.
Partie du rond-point Lokoto pour chuter au terrain Epeauville, cette marche pacifique a réuni plus d'un millier de personnes. Habillées pour la plupart en tenue de couleur blanche comme signe de paix, ces hommes et femmes ont indiqué qu'ils soutiennent les militaires engagés jour et nuit pour la traque des groupes armés réfractaires au processus de paix. Gentil Kanyiki, secrétaire général de cette structure, explique l'essence de cette initiative.
La marche que vous venez d'effectuer dépasse largement le cadre d'un simple acte symbolique. Elle est car l'expression vivante de notre attachement à l'unité nationale, de notre refus catégorique de toute forme de division et de notre engagement résolu aux côtés de celles et ceux qui, au péril de leur vie, assurent la défense et l'intégrité de notre territoire. À nos héroïques phares d'essai, la nation vous honore, la nation vous soutient et la nation vous sera éternellement reconnaissante.
Portée par un idéal de paix et de cohésion nationale, la Fondation Oudu Kenda James dit fédérer ses efforts autour de la paix, le vivre ensemble et le développement durable de la République démocratique du Congo.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, une nouvelle attaque armée vient d'être enregistrée sur la route Goma-Butembo. Deux personnes ont perdu la vie et une autre est grièvement blessée ce samedi 2 mai 2026 lors d'une embuscade tendue contre un convoi de véhicules de transport en commun dans la zone du parc national de Virunga. Les faits se sont produits à l'endroit communément appelé Mayamoto, près de Rwindi, sur l'axe Kiwanja-Kanyabayonga, dans les territoires de Rutshuru. Les détails avec Bernardine Diambo.
D'après des sources concordantes dans la zone, le convoi en provenance de Goma vers Butembo est tombé dans une embuscade de bandits armés non autrement identifiés autour de 10 heures locales ce samedi. Les bilans provisoires fait état de deux passagers tués, un chauffeur grièvement blessé par balle, ainsi que plusieurs passagers dépouillés de leurs biens, notamment de l'argent, des téléphones et autres objets de valeur. Pris en otage pendant plusieurs heures, ces passagers ont été relâchés plus tard pour poursuivre leur voyage. Le chauffeur blessé a été rapidement acheminé vers une structure sanitaire à Kanyabayonga pour recevoir des soins appropriés. Rappelons que cette attaque est l'une d'une série sur cet axe routier stratégique pourtant censé être sécurisé. Depuis plusieurs mois, les cas de braquage, enlèvement et attaques armées se multiplient entre Kiwanja et Kanyabayonga, précisément dans la zone de Busendo, créant ainsi une forte psychose parmi les usagers. Une situation qui inquiète particulièrement les opérateurs économiques et les transporteurs qui assurent le trafic commercial entre Goma, Butembo et Beni. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Par contre, la situation sécuritaire est calme dans la localité de Moliro, située à 350 km de Moba Centre, dans la province du Tanganyika. Précision donnée jeudi dernier par l'administrateur du territoire de Moba, à la suite des informations faisant état des affrontements entre l'armée zambienne et congolaise au sujet du traçage de la frontière entre les deux pays. Il invite ses administrés au calme et à vaquer à leurs activités sans crainte. On écoute Victor Kamfoy, administrateur du territoire de Moba, dans cet extrait sélectionné par Paul Munanga.
Depuis 2020, il y a eu affrontement entre notre armée et l'armée zambienne. Et à partir de cet affrontement, il y a la SADC qui s'est engagée pour essayer de résoudre ces différends qui étaient liés au traçage de la frontière. En fait, les militaires zambiens sont à 3 km de la rivière de Kibang, attendant que la commission de la SADC puisse finaliser le traçage de la frontière. Ils sont en train de placer des bords. La situation est sous notre contrôle. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu un seul coup de balle. Et il n'y a même pas un militaire zambien qui s'est déplacé de là où ils sont depuis 2020 jusqu'à présent. Ils continuent à être sur le mont Sepakanyungo jusqu'à présent. Nous avons la nouvelle unité FARDC qui gère cette situation. Il y a le commandant second de bataillon qui est là. Donc il faudrait dire à la population de rester calme. Il n'y a même pas d'agitation entre nous, Congolais, et la Zambie.
Le ministère de l'Économie nationale annonce l'entrée en vigueur du décret portant mesures d'exercice du petit commerce et du commerce de détail, ainsi que de la signature de l'arrêté interministériel fixant les activités de commerce de détail spécialisées à forte intensité de capital pouvant être ouvertes aux étrangers. C'est ce que rapportent les communiqués du dit ministère rendu public ce samedi. D'autres détails avec vous, Christian Makasinga.
Ces textes s'inscrivent dans le cadre de la volonté du gouvernement de clarifier et de moderniser les cadres juridiques applicables au commerce intérieur en vue de garantir un environnement économique plus structuré, équitable et sécurisé. Ils établissent notamment une distinction entre le petit commerce, le commerce de détail et le commerce de détail spécialisé à forte intensité des capitales, tout en précisant les conditions d'exercice des activités. Conformément aux dispositions en vigueur, le petit commerce et le commerce de détail sont réservés aux opérateurs économiques congolais. Certaines activités relevant du commerce de détail spécialisé à forte intensité des capitales demeurent ouverte aux investisseurs étrangers dans les conditions par la réglementation. Ces segments concernent des secteurs structurés comme les supermarchés modernes, les franchises de marques, la vente de matériel technique ou automobile nécessitant un agrément. Les opérateurs économiques concernés disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Les ministres de l'économie nationale précisent qu'un dispositif de vulgarisation sera déployé afin d'accompagner les acteurs économiques dans la compréhension et l'application de ces mesures. Il invite à cet effet l'ensemble des opérateurs économiques à se rapprocher des services compétents et à consulter les supports officiels qui seront mis à leur disposition. Pour rappel, le gouvernement congolais, par l'intermédiaire du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, avait annoncé en septembre 2025 qu'il ne renouvellera pas les moratoires autorisant les étrangers à exercer dans le secteur du petit commerce en République démocratique du Congo.
Économie toujours. À Beni, au Nord Kivu, en plus bref, le prix du litre d'essence est revenu jusqu'à la normale depuis samedi soir de 21 000 francs congolais, voire 22 000. Il se vend de nouveau à 5 500 francs, soit 2,5 dollars américains. C'est à la suite des plaidoyers et d'une forte pression exercée par des jeunes leaders de la région, mais aussi des élus provinciaux et nationaux, ainsi que des déclarants en douane et de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Ce dimanche matin, plusieurs stations services ont enregistré une forte affluence. Toutefois, la population appelle le gouvernement à supprimer les taxes additionnelles à l'origine de cette hausse sans précédent des prix du carburant. Restons dans la province. La zone de santé de Kibirizi dans les territoires de Rutshuru peine à assurer son fonctionnement normal, faute de recettes suffisantes. Une situation principalement liée à la pauvreté de la population, aggravée par les déplacements forcés dus aux guerres récurrentes dans la région. Conséquence directe, l'approvisionnement en médicaments essentiels, notamment les antipaludiques, devient de plus en plus irrégulier dans les 24 aires de santé que compte cette zone. Bernardine Diambou, reportage.
Selon les chargés des soins de santé primaire au sein de la zone de santé de Kibirizi, toutes les aires de santé éprouvent d'énormes difficultés à mobiliser des recettes pour leur fonctionnement. Il attribue la situation à la pauvreté de la population qui n'a plus accès à ces champs à cause de l'instabilité sécuritaire dans la zone. Jérémy Malimingi.
Quand on soumet au malade la facture, on dit tu vas payer 5 000. Et quand on y ajoute aussi les médicaments, quand on va jusqu'à 10 000 francs, les patients se plaignent. Et c'est pourquoi nous appelons le partenaire à venir appuyer la zone parce que nous sommes en train d'enregistrer des décès communautaires.
Faute de moyens financiers, de nombreux habitants préfèrent abandonner les structures sanitaires et recourir soit à la médecine traditionnelle, soit aux maisons de prière ou encore rester à domicile sans aucun suivi médical. C'est le cas de cette femme vulnérable jointe dans la zone qui explique son incapacité à payer sa facture après des soins réussis dans un centre de santé.
Nous manquons d'argent pour nous faire soigner. Les infirmiers font de leur mieux, mais je n'ai même pas pu payer 100 francs. Voilà pourquoi j'ai préféré rentrer au village pour souffrir chez moi.
Contacter les médecins chefs de zone de la santé de Kibirizi confirme cette situation préoccupante. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Célébrer ce dimanche 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse, est l'occasion de faire le point sur les conditions dans lesquelles les journalistes exercent leur profession dans les différents pays du monde. Si elle se dégrade dans plusieurs d'entre eux, en Afrique, la situation est particulièrement inquiétante au Mali, au Niger et au Burkina Faso depuis que des juntes militaires y ont pris le pouvoir.
L'invité.
Le monde célèbre ce dimanche 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. Au Nord Kivu, les responsables des médias ont demandé au gouvernement de les accompagner dans l'exercice de leur métier dans un contexte marqué par de fortes menaces sécuritaires. Pour en parler, nous recevons le chargé de discipline de l'Union nationale de la presse congolaise, section Nord Kivu, Valérie Mukosasenge, s'entretient avec Marc Marofimbo.
Valérie Mokosasenge, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi cette journée ?
La journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui marque vraiment un signal fort. Également une journée qui nous pousse à lancer un cri d'alarme, mais également une journée d'espoir pour ces journalistes-là qui, bien sûr, suite à l'insécurité, se sont mis de côté, mais également ceux qui travaillent dans des zones sous contrôle, des rebelles qui travaillent sous réserve, mais également avec l'autocensure. C'est une journée qui nous demande, une fois de plus, nous journalistes travaillant dans les zones insécures, d'être toujours les porte-étendards de cette minorité de la population qui a besoin d'avoir une bonne information, l'information à la source. C'est également une journée qui nous pousse à la résilience et montrer qu'au-delà de cette insécurité, il y a une lueur d'espoir, une liberté de la presse. Également une journée où nous lançons un message au gouvernement congolais de laisser cette presse, cette liberté aux journalistes bien travailler, de leur ouvrir les portes pour donner leur point de vue par rapport à tout ce qui ne marche pas, mais également de comprendre que la presse ou les journalistes, c'est un collaborateur direct avec le gouvernement congolais parce que c'est à travers ces journalistes que l'on donne la bonne information, que l'on lutte contre la désinformation, mais également, comme vous le savez, à l'heure où nous sommes, une autre arme, c'est également cette désinformation. Ça veut dire la guerre également numérique. Et ces journalistes aujourd'hui est là pour faire face à ça. Voilà pourquoi nous demandons encore une fois de plus aux autorités congolaises de nous venir en aide, de nous aider, de nous accompagner pour que nous soyons ce quatrième pouvoir qui est là comme chaîne de garde pour montrer ce qui ne marche pas, mais également montrer au gouvernement là où il y a des zones d'ombre pour que les choses évoluent, pour qu'il y ait un changement dans la société.
Au regard du contexte sécuritaire que traverse le Nord Kivu, quel est l'état des lieux de votre profession dans cette province?
Ce n'est pas facile pour ces journalistes qui travaillent dans des zones insécurisées, travailler durement également dans des conditions difficiles,
mais tout en respectant les codes d'éthique et de déontologie. C'est pas facile. Je sais, voilà pourquoi je dis qu'il y a des journalistes qui ont abandonné ces métiers parce que ils se sont trouvés coincés, se sont trouvés dans une situation inconfortable. Mais il y a des vaillants-là, des chevaliers de la plume qui continuent toujours, malgré cette situation, de donner cette information, la bonne information à la population. Donc, disons, donc, grand merci à ces journalistes-là qui continuent toujours malgré cette situation qui est bien sûr passagère, mais également nous devons pousser, nous comme journalistes, pousser le gouvernement congolais de nous ouvrir quand même les portes pour que nous donnions la bonne information équilibrée, tenant compte également des situations que nous traversons.
Valérie Mukosa Senge, comment un État peut-il concrètement assurer la sécurité aux professionnels des médias quand parfois c'est le même État qui malmène la liberté de la presse? N'est-ce pas un vœu pieux? Et face à ces réalités, quel comportement les professionnels des médias doivent-ils adopter, eux qui ont la mission de former la population, tout en faisant face aux contraintes sécuritaires?
Je pense que l'attitude à prendre aujourd'hui, malgré cette situation, c'est de dire qu'on a une mission. Nous sommes comme des enseignants, nous sommes comme une lampe qui doit éclairer la société. Donc on ne doit pas se décourager. Malgré cette situation, nous devons toujours être focus et se dire, si nous ne sommes pas là, la société sera perdue, la société n'aura pas de repères. Donc nous sommes une lampe qui doit servir pour éclairer et également aider le gouvernement congolais à comprendre que si nous mettons de côté la presse, le gouvernement ne saura pas bien travailler, ne saura pas qu'est-ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, nous sommes 130e au monde sur 180 pour ce qui concerne la liberté de la presse. C'est un recul, c'est un message encore fort que nous lançons au gouvernement, de laisser les journalistes bien travailler, mais également de ne pas chaque fois les pousser, mais également être des porte-faux à la liberté de la presse.
Valérie Mukosa Senge, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Valérie Mukosa Senge qui s'entretenait avec Marc Marofimbo. Voilà qui met fin à ce journal parlé dominical de la mi-journée, préparé pour vous par Jean Ganduka Bongo et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est disponible sur notre site internet www.radiocapi.net.